Bien, alors bonjour, bonsoir à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir l'occasion de revoir Charlotte Boland à Paris, puisque nous avons collaboré assez longtemps sur ce projet, sur ces projets d'études d'or. Donc, pour vous replacer Charlotte dans son contexte, elle travaille à la National Portrait Gallery à Londres, où elle est aujourd'hui responsable des peintures du XVIe siècle. Et avant peut-être de vous parler de cette belle collaboration entre nos deux institutions, il me paraît assez essentiel de vous donner aussi quelques éléments de contexte, de vous parler un petit peu de la genèse de ce projet. C'est une idée qui est... L'idée de cette exposition est née des contraintes thématiques imposées par le Sénat pour la programmation des expositions au musée du Luxembourg, puisque vous savez que le musée du Luxembourg est véritablement le musée du Sénat, et le Sénat a choisi d'orienter la programmation de ces expositions en imposant des thématiques. Donc les deux grandes principales thématiques sont l'art et le pouvoir et la Renaissance européenne. Et il est vrai qu'avec l'étude d'or, on avait un petit peu l'opportunité unique de faire une pierre de coup, de répondre à la fois à la thématique de l'art et le pouvoir, et aussi on avait l'opportunité assez unique et inédite de montrer un pan de la Renaissance qui n'avait jamais été montré en France jusqu'à présent, c'est-à-dire la Renaissance anglaise. Et je dirais que en plus de cette double opportunité, on pouvait voir aussi avec le sujet des Tudors, comme l'a rappelé Monsieur Le Gall, un sujet qui avait une popularité potentielle auprès du grand public au regard de son succès au cinéma et à la télévision. Alors juste pour commencer sur une petite note sympathique, et pour vous rappeler justement ce lien très fort qui unit le musée du Luxembourg au Sénat, je vous montre ce très joli dessin de presse qui a été réalisé par Plantu au moment de l'exposition. Et vous voyez que ce dessin de presse d'un humour très potache associe de manière très forte les sénateurs et les Tudors. Et sur un sujet comme les Tudors, comme vous vous en doutez, les collections françaises ne sont pas d'une richesse suffisante pour construire un projet de nous-mêmes, tout seuls. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été en Angleterre à la recherche d'un partenaire qui allait nous permettre de pouvoir donner vie à ce projet. Et c'est de manière très naturelle que nous nous sommes tournés vers la National Portrait Gallery de Londres, dans la mesure où la National Portrait Gallery détient la collection la plus riche de portraits Tudor au monde, hein, je pense qu'on peut le dire. Et lorsque nous nous sommes adressés à la National Portrait Gallery, je crois que c'était en 2012, la National Portrait Gallery était justement en train de travailler sur un projet d'exposition en rapport avec les Tudors, qui était cette exposition qu'ils avaient baptisée dans un premier temps The Real Tudors, pour bien se distinguer des faux. Et ce projet nous a tout de suite beaucoup séduit parce que c'était un projet bien sûr centré autour des figures des Tudors, des portraits, donc c'était un projet très vivant qui permettait de faire surgir ces personnages historiques, mais aussi ces personnages qui sont devenus par la suite des personnages de légende. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes lancés dans l'aventure autour de ce projet, sachant que dès le départ, il y avait quand même cette petite question qui nous taraudait. Est-ce qu'on peut présenter en France, de la même manière qu'on le fait en Angleterre, une exposition aussi britannique que les Tudors? Et donc, dès le départ, nous avons senti qu'il allait falloir adapter ce projet à notre public français. Ce d'autant que le projet d'exposition The Real Tudors ce n'était pas un projet d'exposition hors contexte, puisque c'était un projet d'exposition qui, pour la National Portrait Gallery, venait couronner un grand programme, un grand et long programme de recherche de 7 ans, je crois, sur les collections Tudor, dont Charlotte va vous parler plus en détail. Et donc, il y avait un contexte différent qui imposait aussi qu'on retravaille, qu'on s'appuie sur le travail de la National Portrait Gallery sur cette exposition, mais aussi qu'on imagine, à partir de ce noyau central, une autre exposition pour le Musée du Luxembourg.
And first of all, I must start with an apology in that even after working with Cécile for all these years, my French is not good enough. So je suis très, très désolée, but I have to speak in English. So this is one of the perils of collaborating with other institutions. So yes, the National Portrait Gallery had been working on the research project Making Art in Tudor Britain for 7 years. And this was because the art of the English Renaissance, the 16th century, is comparatively little understood, that it was really in the 1960s that Roy Strong first started thinking about it as a sort of subject worthy of study. And we are, compared to the sort of Italian Renaissance, the French Renaissance, there's so much still to be learnt. And what the National Portrait Gallery has is the largest collection of 16th century British paintings to survive, because portraits survive to a kind of disproportionate extent, that they've survived the vagaries of kind of religious iconoclasm and taste, because everybody keeps the painting of their grandfather, their great-grandfather. And so we had this kind of core of paintings that we were... established a research project to use the paintings as the objects of research, so to undertake technical analysis to learn more about how they were made and how artistic practice in Britain in the 16th century. It was a collaborative project. We worked with the Courtauld Institute, with two universities, and we had a mix of art historians, curators, historians, conservators, conservation scientists, really pulling on all different types of resources, as well as a research assistant reassessing all the documentary archival evidence. So we were a real team. The types of analysis that we did were dendrochronology. This allows you to date the wooden panels by saying when the tree was last growing. Infrared reflectography to learn about the drawing practice, the preliminary mark. Ultraviolet examination to assess the kind of current condition of the surface. Microscopy, just to be able to see in real detail. In many ways, we were kind of seeing these paintings in a way that not even those who created them had been aware of, that kind of level of detail. X-radiography, seeing through the paint layers, and limited amounts of paint sampling. And so we're pulling together this huge amount of information that we undertook research on 120 paintings in the gallery's collection. And we had always had an intention. There were many outputs. We had displays, we have a database online, we have a large kind of essay volume, and we always knew that we wanted to have a larger display to kind of talk to a larger public about the research. And so we came up with the idea of hanging it off, as it were, the Tudor monarchs, that within the National Portrait Gallery, the Tudor galleries are the first ones that you're sort of directed to up the escalator. It's the first bit of sort of British history that people are really familiar with. Everybody walks in and knows who Henry VIII is, knows who Elizabeth I is. And so we thought we could use that to make people ask different questions about how these objects were made, who made them, who was actually seeing the king, what is a copy of a painting, what's a contemporary version, and also to take advantage of the fact that in the gallery we have a number of paintings of Henry VIII, a number of paintings of Elizabeth I that aren't all on display at the same time, because you're kind of doing more of a narrative impression of British history. And so to use that to allow people to kind of compare and contrast what these different portraits meant. So, for example, there we have the rooms for Henry VII and Henry VIII in the top, and Edward, and you can see Elizabeth in the distance there. It was a small exhibition. It was three rooms. It was free because our collection is free To access, and as the majority of works in the exhibition were from our collection, we didn't feel that we could ask people to pay for them on this kind of special occasion. But we also borrowed one object for each monarch to kind of act as a talisman, almost, of their kind of physical presence. So, for example, we had Henry VIII's rosary. So you have this kind of hall of mirrors of many Henry VIII's that you're thinking about how they're made, but just anchoring it with this idea of, yes, this is a person.
Et pour développer ce projet pour le public français, plus précisément, donc vous voyez que à la National Portrait Gallery, l'exposition était, enfin les espaces étaient plus petits de toute façon qu'au Musée du Luxembourg, donc il fallait de toute façon imaginer un développement. La première idée qui nous est venue pour développer, enfin disons que nous avons cherché à développer ce projet dans deux directions, nous avons exploré deux pistes. La première piste est venue assez naturellement, c'était de remettre cette histoire typiquement anglaise dans un contexte français, de la mettre, de faire un parallèle avec l'histoire de France, d'autant que ce parallèle était d'autant plus attendu que, comme vous le savez tous, Henri VIII fait partie des grands rivaux de François Ier, et en plus de ça, l'année des commémorations de François Ier, l'idée est venue d'elle-même.
Yeah, so as Cécile said, that it was the most obvious and exciting way for us to first think of expanding the exhibition was to think of the Anglo-French relations and this slightly cheeky pairing of paintings that there were, of course, versions of the portrait of François that are the same size as the portrait of Henry. But these are both from the Royal Collection. So this is ones that François had sent to Henry VIII. And Henry and François Premier had an incredibly close sort of personal rivalry. Perhaps Henry was slightly the junior partner, desperately always trying to impress François. And so to have the opportunity to discuss this in the exhibition, and because, of course, the Tudors considered themselves to be kings of France, as their territories slowly receded, but nonetheless, the title of King of France was very much within their honorary titles. That the level of artistic exchange between England and France manifested itself in all sorts of forms, but the most kind of direct trigger was in the development of miniature painting, which happened simultaneously, it seems, in both courts, that Henry received a miniature from François but was able to sort of immediately reciprocate with miniatures of his own. And miniature painting is what sort of goes on to become the one sort of European recognised art of the English Renaissance with Nicholas Hilliard and Isaac Oliver, of a real kind of specialist area, and it begins in this Anglo-French conversation. So it was really wonderful to be able to have the space to discuss that. And there's also the question of the diplomatic ties between England and France that were cemented through dynastic marriages. That I was absolutely thrilled that we were able to bring the portrait by Sitov of Mary Tudor, Henry's sister, who has been long, long identified as Catherine of Aragon. She is on the cover of every biography of Catherine of Aragon, but it's not her, it's Mary Tudor, with the portrait of Louis XII, that, again, from the English Royal Collection, that this was one of the portraits that was sent for their very hastily arranged marriage after she finally repudiated Charles V. Similarly, to bring back to France the full-length portrait of the Duc d'Alençon, one of Elizabeth's suitors, and really to show within the kind of range of the young men trying to marry Elizabeth I, the way in which they kind of played off each other. So you have Robert Dudley, Earl of Leicester, and Alençon wearing very similar clothes, that Elizabeth's favourite colours were black and white. And so you have these men kind of vying for her attention in their white clothes. And then finally, the thing that we wanted to sort of play with is perhaps encapsulated in these two book covers, that Hilary Mantel's Wolf Hall has been having a huge cultural moment in the UK. It's a series of books about Henry VIII's advisor, Thomas Cromwell. It's unprecedentedly won the Booker Prize for the first volume and for the second volume. It's been made into the Royal Shakespeare Company have made plays about it. It's been made into a TV series by the BBC, won BAFTAs, and it's the very kind of serious historical novel, but very kind of considers itself very erudite. And at the gallery, we're continually besieged with people kind of going, oh, where's Cromwell? What are you doing with Hilary Mantel? And I was fascinated to see the difference in the way that the book is marketed in France. And so you have here the counsellor, and with the kind of dagger behind the back and this much more sort of melodramatic image. And so this was something we knew we needed to think about in the exhibition, that in the context of the National Portrait Gallery, people are coming for a sort of discussion of British history and a layout. What are the preconceptions that a French audience brings when they think of Henry VIII and Elizabeth I and the Tudors?
Et donc l'idée a été, la seconde piste que nous avons creusée, c'était d'explorer comment et quand les Tudors sont devenus des figures de légende dans l'imaginaire français. Et cette approche nous apparaissait d'autant plus justifiée que dans l'histoire du cinéma, le premier long métrage consacré aux Tudors est une production française avec Sarah Bernhardt dans le rôle d'Elisabeth, une production française qui a reçu d'ailleurs le soutien financier d'Adolphe Zukor pour être exporté aux États-Unis, où le film a remporté un immense succès et peut-être considéré un peu comme le point de départ d'une histoire hollywoodienne, enfin du succès hollywoodien du thème. Et donc on avait l'impression qu'il y avait quelque chose à explorer de ce côté-là, d'autant que ce film avec Sarah Bernhardt, qui est encore du théâtre filmé, est l'héritier d'une longue tradition théâtrale qui remonte même jusqu'au XVIIe siècle, puisque dès le XVIIe siècle, les auteurs français, dont par exemple Thomas Corneille, le frère de Pierre, se sont intéressés au thème d'Élisabeth, et notamment à la fin du règne d'Élisabeth, et ont développé le thème de la légende noire d'Élisabeth à la fin de sa vie, cette reine qui dont le favori, le comte d'Essex, l'a trahi et qui est complètement déchirée entre son cœur et la raison d'État. Et cette légende noire que les Français développent dès le XVIIe siècle, c'est quelque chose qu'on retrouve, qui revient en puissance au XIXe siècle, dans la grande peinture d'histoire avec Paul de la Roche, comme dans cette mort d'Élisabeth, qui est un très grand tableau au Louvre, un très grand tableau qui n'aurait pas passé la porte du musée du Luxembourg, donc qui était présent dans notre exposition au travers d'une gravure d'ailleurs prêtée par la Bibliothèque nationale. Ce côté sombre, on le retrouve bien sûr dans toute la peinture romantique, au-delà même d'Élisabeth, avec toute l'histoire autour des femmes d'Henri VIII, notamment Anne Boleyn, ces victimes innocentes des caprices et de la politique du souverain. Cet intérêt pour l'époque des Tudors, il faut évidemment la mettre en relation avec l'intérêt pour les grands auteurs britanniques tels que Shakespeare et Walter Scott. Shakespeare est est redécouvert véritablement au 19e avec des troupes d'acteurs britanniques qui viennent se produire sur les scènes parisiennes. Walter Scott connaît un succès immense. Ses romans sont à peine publiés qu'ils sont déjà traduits, adaptés pour le théâtre. C'est notamment le cas de Victor Hugo, qui s'empare du roman de Kenilworth pour en faire une pièce intitulée Amy Robsart, autour d'Elisabeth et de son favori Leicester, dont on a vu le portrait tout à l'heure dans l'exposition. Et bien sûr, sans oublier les grandes productions lyriques, les grands opéras, aussi bien du répertoire italien comme les grands opéras de Donizetti, Anna Bolena ou Roberto Devereux, qui sont produits à Paris. Donizetti étant presque le premier inventeur du concept d'une série Tudor, puisqu'il a consacré quatre de ses opus à l'histoire des Tudors. Mais au-delà du répertoire italien, il y a aussi cet opéra Henri VIII de Camille Saint-Saëns, qui est une petite bizarrerie dans le répertoire français, mais donc qui est produit à la fin du 19e siècle. Et nous voulions justement explorer dans l'exposition tout le potentiel théâtral de la dynastie, un potentiel théâtral qui débouche directement sur le cinéma et qui se développe aussi dans un dialogue très intéressant avec la peinture, avec la grande peinture justement de Paul Delaroche. Et on sait très bien que le tableau de Paul Delaroche, La mort d'Elisabeth, d'ailleurs comme le très beau tableau de la National Gallery sur Lady Jane Grey, ont été des tableaux qui ont servi de point de départ à des mises en scène, qui étaient transformés en tableaux vivants sur la scène par plusieurs metteurs en scène, et donc qui s'inscrit, c'est une peinture qui s'inscrit dans un dialogue tout direct avec le théâtre. Et d'ailleurs, ce qui nous semblait pertinent aussi dans l'exposition de montrer, c'était de voir que encore dans le film avec Sarah Bernhardt, dans cette pièce filmée avec Sarah Bernhardt, on voit encore le poids de l'influence de Delaroche sur la scène. Et dans l'exposition, en termes de scénographie, pour nous se posait un véritable défi. C'était celui de présenter dans un même projet à la fois l'histoire et la légende, sachant que nous voulions à la fois que ce soit deux parties de l'exposition qui soient clairement différenciées. Nous ne voulions pas mélanger l'histoire et la légende, mais nous ne voulions pas non plus que ce soit deux parties complètement étanches l'une à l'autre, et nous ne voulions surtout pas que faire une succession un petit peu plaquée de d'abord l'histoire et ensuite la légende. D'autant que nous voulions vraiment finir l'exposition, clore ce projet sur un grand tableau, un grand portrait d'Elisabeth que vous avez ici sous les yeux, le Ditchley portrait. Nous voulions vraiment que l'exposition se termine avec la gloire des Tudors, des vrais Tudors, pour reprendre le titre de l'exposition londonienne. Et donc notre scénographe avait un véritable défi à relever, et ce qu'il a fait, je dois dire, de manière assez subtile et qui nous a beaucoup plu. Donc Hubert Le Gall nous a proposé pour articuler ces deux thématiques de diviser la légende en deux temps. D'abord en faisant une partie introductive. Vous voyez d'ailleurs là sur le plan de la scénographie, vous voyez que la légende correspond à ce qui est en violet, donc qui se distingue par la couleur violette de la moquette, tandis que l'histoire se déroule sur la moquette grise et la moquette verte. Et vous voyez que donc on propose d'accueillir le visiteur par la légende, et il a placé une autre salle, donc au centre sur le plan, donc que vous voyez là, qui est une salle que l'on découvre, vers lequel on s'oriente à la fin du parcours, donc qui arrive dans le parcours de visite à la fin, mais pour sortir de l'exposition, on est obligé de repasser dans l'histoire, de retraverser l'histoire et de repasser devant le grand portrait d'Elisabeth. Sachant que ces deux parties consacrées à la légende, donc au début et à la fin du parcours, sont deux parties qui communiquent l'une avec l'autre, puisqu'il y a, des parois vitrées donc, entre ces deux parties. Donc quand on arrive dans l'exposition, on devine de l'autre côté qu'il y a une autre section en rapport avec la première, et de même que lorsqu'on arrive à la fin, on peut être rappelé on revoit l'introduction de l'exposition. Et d'un point de vue plus du sens, ce que nous avons voulu montrer aussi en détachant ces deux parties, c'était dans un premier temps, en introduction, c'était de montrer le succès cinématographique de la série, enfin de la dynastie, pardon, justement en montrant un extrait du film avec Sarah Bernhardt et en montrant le costume que portait Cate Blanchett dans le film de Shekhar Kapoor, donc de 1999. Donc c'était évoquer le succès cinématographique tout au long du XXe siècle. Et déjà, en exposant le grand tableau de Cibot et les moulages du XIXe, des gisants de Henri VII et Elisabeth Diorc, c'était de montrer de suggérer tout ce que le cinéma doit à la culture du XIXe siècle, d'une part à la peinture, mais aussi à ce XIXe siècle qui se passionne pour l'histoire et qui fait de nombreux moulages sur les sculptures anciennes. Et ensuite, dans l'autre salle de l'autre côté, c'était vraiment se concentrer sur l'étude d'or au XIXe siècle, au théâtre, à l'opéra, etc. Et l'effet de transparence qu'il y avait entre les deux salles, donc le film de Sarah Bernhardt qu'on voyait au départ pouvait être vu aussi de l'autre côté de la salle, et ce qui a permis de refaire dans l'exposition, de rétablir le lien donc entre l'œuvre de Delaroche et le film avec Sarah Bernhardt. Et dans l'exposition, la seule petite incursion de la légende dans l'histoire que nous nous sommes permises, c'est autour des femmes d'Henri VIII. Donc peut-être Charlotte.
Just because it's very difficult to bring all the portraits of Henry VIII's wives together, particularly Catherine Howard, a kind of portrait of her doesn't exist. But the sort of strength of interest that if you have Henry and not six wives, it's sort of such a strong kind of bit of cultural memory almost that we felt we had to explain it in some way. And because there were these wonderful 19th century French engravings exploring what the French wives looked like. And what was wonderful was that Anne of Cleves, who have the Holbein in the Louvre, that she actually looked like Anne of Cleves, that the artist had done the research to say, this is Anne of Cleves. Everyone else was a bit sort of cod medieval, have a guess. But Anne of Cleves was a kind of copy from the reference material.
And juste pour conclure sur le catalogue de l'exposition, ce travail que nous avons essayé de faire entre le 16e et le 19e siècle, c'est aussi un travail auquel se sont prêtés les auteurs du catalogue, notamment Catherine Howard et Maria Howard, en proposant des essais autour de l'architecture des Tudors et l'autre autour des vêtements et des costumes des Tudors, en essayant de voir justement le rapport qui pouvait s'instaurer entre le 16e et le 19e siècle.
This might not translate very well, but I know that in English history there's very much the discussion of kind of costume was the term used for dress. And dress historians are saying, no, it's not. They're not playing dress up in the 16th century. They're wearing their clothes. And so it was really wonderful to be able to invite a dress historian to say, this is what dress is in the 16th century and how it gets translated into costume in the 19th century. And that kind of conversation, and being able to play with that, similarly with the theatrical stage setting that people think of in the Renaissance court of the architecture, and saying that this is actually the kind of classicizing architecture that Henry VIII was trying to have very much in imitation of François Ier, that as opposed to the kind of Gothic art of the imagination, and that the kind of the stage setting that people felt the Tudors should be in was actually this kind of concocted Gothic fabrication. Yes, and really to conclude, I couldn't resist that in this year of François Ier's anniversary, Henry VIII finally recognised as King of France. but to say how much the kind of portrait gallery enjoyed, how fruitful the collaboration was, that it was not simply translating an exhibition from London to Paris, but exploring our collection in a whole new way, that it gave us this opportunity to really reconsider how the kind of assumptions that people bring to our collection, and we have very international audiences at the Portrait Gallery, and so it's really sort of freed up more creative ways of thinking about the Tudor collection.